Apéro spécial Lakers.
Los Angeles. Boum. Les pourpres or. Ouais, l'équipe de Californie, enfin l'une des équipes de Californie. Qui, la Californie, cette année, en termes basketballistiques, c'est compliqué. Hein.
Putain, c'est Lakers,
c'est les Lakers qui sont top 6 et sur lesquels on a des gros doutes qu'on va exprimer dans cet apéro. C'est la meilleure équipe de Californie cette année.
On a eu des QV meilleurs.
Jusqu'à temps que les Clippers de Kawhi repassent devant, mais il y a encore un peu de temps.
Moi, je trust Maxime Reno. Et le retour de Porzingis.
Ah oui, pardon. C'est vrai que les Kings sont en Californie aussi. Alors, ils sont moins bons, ils sont derrière. Hein.
En fait, la meilleure équipe de la division Pacifique, quelque part, sont les Suns. Mais on en reparlera.
Ils sont quand même derrière au bilan par rapport aux Lakers.
Non, mais... Ressenti de saison, les Suns font la meilleure saison des équipes de la division Pacifique.
Ressenti de saison, il n'y a juste pas photo. Est-ce que les attentes n'étaient pas les mêmes aussi?
Absolument. On espère que vous allez bien. On s'installe tranquillou. On a plein d'actu à devoir discuter, notamment celle de nos amis les Lakers, parce qu'on est à un gros mois à peu près de l'arrivée des playoffs. Et quand on regarde la conférence Ouest, on voit ce qui se passe. On se demande, tiens, est-ce que c'est dans le même groupe que d'autres équipes? On va en parler en long et en large. Avant ça, on ouvre bien grand ses oreilles. Je le sais qu'on a une couleur côté Lakers qui est très connue, c'est le jaune. On a une autre couleur qui est très connue à Nantes. C'est le jaune.
Dis donc le jaune, effectivement.
T'as vu cette transie?
Le jaune canari.
Est-ce que tu veux que je fasse la baguette comme Marama Bayrua?
Je valide.
Mesdames et messieurs, le lundi 30 mars 2026.
Ça sera vraiment le meilleur jour de la semaine.
Ce sera le meilleur lundi de l'année puisqu'on sera à Nantes pour un apéro en public. Vous foncez dans le premier lien en commentaire de cette vidéo. Là, regardez, en épinglé, il y a la billetterie qui est prête. Apéro Collector au théâtre sans nom. On sera présent pour une grande soirée à Nantes pour tester la commu après être passé à Strasbourg. Oui. À Metz, après Paname, direction la West Coast pour aller tester le Pays de la Loire.
C'est sur les quais, côté Hangar à Banane.
Absolument.
Pour celles et ceux qui connaissent cette belle ville de Nantes.
Hangar à Banane, à ne pas confondre évidemment avec l'atelier des pruneaux.
Voilà.
Et vous pouvez en faire comme ça des kilomètres.
On peut en faire beaucoup.
Ouais. Ouais, tout à fait.
Théâtre sans nom.
Oui.
Apéro en public.
Très grosse soirée, on se donne rendez-vous. C'est ça, on se donne rendez-vous, vous allez avoir toutes les infos, on se donne rendez-vous vers 18h.
Ouais, voilà, exactement.
C'est ça, au théâtre, on s'installe, tranquillou, on fait ensemble de 19h à 20h un grand apéro.
Après, on va boire des coups.
Et après, on aura un spot. Exactement, on va te donner toutes les infos avec modération. Mais si vous voulez voir Alex balancer des takes magnifiques à 2 semaines des playoffs, si vous voulez voir Léonce en chair et en fucking bones.
Et bien sûr, avec Léonce, on restera poli, on parlera pas de foot, puisqu'en ce moment, à Nantes, t'es d'accord, Léonce. En même temps, Léonce, il est de Bordeaux.
Je les attends.
Ouais, voilà. C'est ça, tranquille.
On va se croiser.
Mais voilà, on restera calme et tout. Mais si vous voulez mettre du jaune, allez-y. Il n'y a pas de problème.
Absolument. Toute la team du Pays de la Loire, vous venez, vous foncez, ça va partir très très vite. Ça y est, la billetterie elle est ouverte, donc vous foncez dans le lien qui est en premier commentaire de cette vidéo. Allez-y, hein, et on a très très hâte de vous voir le lundi 30 mars au Théâtre Sans Nom. On va tester la commu nantaise. On avait déjà été à Nantes, notamment pour des séances de dédicace.
Ouais.
Toujours formidable, hein. Ville exceptionnelle, on aura très très hâte d'y retourner.
Ah ouais, on a fait la FNAC de Nantes, tout c'était très cool, pure ville hein, Nantes. Hein.
Oui, mais là on va voir si la West Coast accueille aussi bien que l'Alsace. Attention, Strasbourg et Metz,
la East Coast, nous a accueilli. Tu sais que ça avait envoyé du sale.
On est reparti avec des cadeaux mon gars, attention j'en ai encore.
Ouais, puis même on t'a envoyé du sale, déjeuner.
Attends, la bouffe. Hein.
Le déjeuner à Strasbourg, il est encore en vidéo.
Les Spetzla.
Ouais, non.
Bien sûr.
Voilà, Nantes, on va voir. On va voir ce qu'on trouve.
On vous attend très très fort évidemment et je préfère vous dire, restez connectés parce que peut-être que sur le printemps, on aura d'autres annonces à vous faire.
Oh là. Bah, en même temps, c'est le début des beaux jours, c'est le printemps, donc c'est sûr qu'on va se balader un peu hein, avec Léon, Sébastien, à droite, à gauche.
C'est ça.
On va aller voir du pays, ce qui sera peut-être pas trop le cas des Lakers. T'as vu le... Boum.
Quel caviar, absolument.
Les Lakers, là, on parle plus de ce qui va se passer cet été, de ce qui pourrait se passer cet été, que de ce qui pourrait se passer au printemps. C'est jamais bon signe. Hein, quand t'es en février-mars et que les types sont là, alors, t'inquiète pas, cet été, ils vont avoir de la masse salariale. Ils vont pouvoir y aller comme des oufs sur les agents libres plutôt que de parler de play-off, alors que l'équipe est top 6 pour l'instant. Et elle a été top 6 toute la saison, grosso merdo, quoi. Hein, on est d'accord, hein. C'est jamais trop bon signe, ça. C'est, voilà.
J'ai très hâte de parler des Lakers le 30 mars. Peut-être que la saison sera déjà jouée. Allez, on va passer justement.
Bah non, elle sera pas jouée, t'es ouf. Ils vont aller en playoff quand même. Enfin bon, on va en parler.
Hein, on va parler des playoffs. Pourquoi l'apéro Lakers? Vous avez vu en ce moment, puis de toute façon, ça fait déjà longtemps qu'on fait ça. On aime bien parfois faire des grosses piscines avec plein d'équipes et plein de joueurs. Et puis parfois, on fait des focus sur des franchises. Et puis, je disais à Alex, quand même, ce serait pas mal de se faire un moment spécial Lakers parce que nous sommes à 6 semaines des playoffs. Et si on prend purement le bilan de nos amis les Angelinos, 36 victoires, 24 défaites. Tu es une équipe du top 6 de la Conférence Ouest. Sur le papier, d'où le titre de cette vidéo, tu peux te dire, mais attends, nous on est dans la même discussion que potentiellement les Rockets, les Wolves, les Nuggets qui chutent un peu là parce qu'il n'y a pas Aaron Gordon et ni Peyton Watson. Donc on ne sait jamais, sur un premier tour de playoff, peut-être que nos amis Lakers qui sont sortis l'année dernière, assez brièvement quand même la durée de la série face à nos amis les Wolves, est-ce que c'est une équipe en fait qui a un vrai bilan de 36-24 là et qui peut monter en température à l'arrivée des playoffs, ou est-ce que c'est une équipe qui a un petit peu un faux bilan? Et donc je voulais discuter de tout ça avec toi parce que c'est quand même hyper important. En plus de, dernier élément et après je te lance, le fait qu'à la fin de la saison il va y avoir 2-3 décisions à prendre cet été.
Mais je t'ai dit, pour l'instant nous on est là pour s'occuper du printemps.
Ouais, mais le printemps va pas être tendre.
Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire par faux bilan?
Alors,
parce que déjà, faut.
Au moment où on parle.
Vraie équipe, je vois à peu près ce que tu veux. Est-ce que c'est une vraie équipe? On va se poser la question.
C'est les deux questions.
Je vois bien la question, mais faux bilan, tu veux dire que.
Ce que je veux dire par là.
Le 36-24 est un peu usurpé, un peu genre. C'est un bilan flatteur, tu veux dire?
En fait, quand on regarde une saison, parfois on regarde juste le bilan et on se dit, bon, bah, c'est une équipe qui est déjà à 40 victoires ou à 35 victoires ou une équipe qui se bat un peu et qui a tel bilan. Sauf que, on le sait. C'est différent quand tu bats des très gros gros ou quand tu bats des très petits petits. Et il y a un fait, c'est pas contre les Lakers, mais c'est un fait qui est beaucoup relayé par les fans et où je voulais notamment mettre ça en avant en parler avec toi, c'est que les Lakers, si on prend l'ensemble de leur saison, trouver des victoires face à des équipes élites, je te souhaite bon courage pour en trouver 10 sur leurs 36 parce que ces Lakers-là sont très forts dans plusieurs aspects. Un, tabasser les petits. Deux, terminer les matchs qu'ils dominent au bout de 3 quarts temps. C'est une équipe qui est en 25 victoires, une défaite lorsqu'ils mènent au bout de 3 quarts temps. Donc tu vois, en gros, quand ils ont les mains sur le volant, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y a un petit peu d'adversité et des équipes qui sont un peu élites, très souvent, ça craque. Et donc, c'est pour ça que j'invite à la question, est-ce que c'est un bilan réel ou est-ce que c'est une équipe qui est moins bonne que ce que son bilan ne permet d'envisager?
À quoi tu imputerais le fait de pas être fichu de battre des vrais gros gros? Comme tu dis, là, dès que c'est un peu serré, dès que l'équipe a une opposition un peu tactique, est-ce que tactiquement...
Il y a plein de choses à discuter.
Au moins offensivement et tactiquement, c'est une équipe capable. Quant à Austin Reeves, Luka Doncic, LeBron James et même un JJ Redick qui a montré qu'il pouvait mettre en place 2-3 trucs, t'es capable de t'adapter à pas mal de choses en termes d'attaque d'un point de vue tactique. Est-ce que t'imputerais du coup ces espèces de défaites à un manque de dureté mentale? Genre ça joue un peu soft? Parce que moi c'est un des premiers mots qui me viendrait à l'esprit. Et je parle pas forcément que de DeAndre Ayton. Je parle des Lakers au global.
Oui.
Ça joue un peu softy. Ça joue... On peut... voilà, on l'a vu.
Quand tu leur rentres dedans, il n'y a pas beaucoup de répondants.
Non, exactement. On a vu les histoires autour de DeAndre Ayton, où DeAndre Ayton a dit « Ouais, on me sert pas assez le ballon, je suis pas Capella, merde !» Et en fait,
Si tu pouvais déjà être Clint Capella, frérot.
En fait, voilà, si tu te battais et que tu te donnais comme un Clint Capella au quotidien tous les jours, en fait, peut-être que les Lakers, ça leur plairait tout autant. Ayton, c'est quand même le symbole de l'irrégularité, le type, là. Moi, j'avais encore espoir en lui quand il est parti à Portland, de Phoenix à Portland, où je me disais « Portland vient peut-être de faire une bonne affaire. »
Eh ben, ils ont drafté deux pivots derrière.
Voilà. Bon, on peut pas dire que ça a été des réussites de fou malade non plus, leurs deux pivots derrière, mais bon, Klingan, on verra. J'attends de voir sur des périodes de temps de jeu plus longues.
En tout cas, j'attends de voir un peu. Du sale.
Ouais, j'attends de voir un peu quand les Blazers retourneront en playoff, comment il va se faire exploiter sur des îles désertes. On verra. Mais oui, non, carrément intéressant. Ils ont d'ailleurs pas hésité à couper DeAndre Ayton. Je veux dire, ce n'est pas un trade. Donc, tu vois, le type avait un gros contrat à Phoenix. Phoenix a matché l'offre des Pacers à l'époque parce que on sortait des finales 2021. Il faut reconnaître que le run de playoff des Suns, Ayton,
il est dedans.
Franchement, grave. Il défend bien.
Pour tenir Anthony Davis,
Jokic, tout ça. Il fait le taf. Mais derrière, c'est la débandade et surtout, c'est beaucoup d'irrégularités. C'est-à-dire que t'as des matchs, 21 points, 12 rebonds, et on est tous là, genre, il a des mains, c'est cool, putain, tu le sers mid-range, il peut shooter, il peut te faire un push-shot, il peut même te lâcher un ballon correct, et il se bat au rebond. Tu passes de ça à, il a mis que 2 points en 4 tirs, et il a pris que 3 rebonds, et regarde là comment il se fait manger par l'arrière adverse qui vient lui bouffer des rebonds offensifs sur le nez. C'est un des premiers sujets qui est assez symbolique et après je vais venir aux stars, mais je veux bien ton avis là-dessus, mais moi je trouve que Ayton c'est vraiment une pièce centrale des problèmes, qui est un peu le symbole de, ils savaient qu'il leur fallait des pivots, un pivot au moins cet été, les Lakers, parce qu'ils sont quand même dans une optique de retool, de réoutillage, hein, comme on dit, autour de Luka Doncic. Et que si tu veux réoutiller autour de Luka Doncic, tu cherches de l'explosivité, de la verticalité, des extérieurs qui défendent la ligne à trois points et des intérieurs qui vont chercher des lobes et qui se battent au rebond. Je schématise un peu, mais voilà.
Oui.
Ce que Ayton peut être, mais pas si souvent que ça.
Non.
Voilà.
Par rapport à cet élément-là,
Ayton, quand même, c'est important.
C'est un élément très important. L'équipe, pour moi, et on a discuté tout au long de la saison, et même avec certains fans des Lakers lorsqu'il y avait les 30 previews, c'est une équipe qui est, pour rester poli, bizarrement construite. C'est-à-dire qu'ils ont essayé, Rob Pelinka a essayé, quelques petits coups, d'essayer d'aller chercher un Marcus Smart, un DeAndre Ayton, de balancer un petit peu des
Marcus
questions
Smart,
comme ça.
Marcus Smart, c'est pas inintéressant.
Bah, certains soirs, ça peut, tout à fait.
Oui.
Mais, et à la limite là, récemment, bien joué Luke Kennard, parce qu'il a vraiment eu des bonnes séquences de sa part, et qui permettent justement
Ravia,
un petit peu de spacing. Bon. Mais du coup, en fait, on a débarqué en début de saison en se disant transfert sismique en février dernier, il y a un an. Luka Doncic débarque aux Lakers. Tu as Luka Doncic, LeBron James, le mec, c'est son idole. L'autre, il y a la passation de pouvoir. Et en plus de ça, ils ont Austin Reeves qui est en train de devenir un badass.
Un level all-star.
Tu avais déjà ça sur le papier. Mm. Tout ça en plus saupoudré par Luka... Tu sais, énorme travail cet été, le mec qui revient, il est svelte, on s'est dit, bon, on va voir ce que ça donne cette saison, et sur la production numérique de Luka, toujours pas grand-chose à dire, on pourra reparler du joueur et sa production sur la saison complète, mais bon, le mec, il est présent, et il a fait quand même des gros cartons, production de level MVP. Mais donc, ce que je veux dire, c'est, par rapport à l'élément dont tu parles là, de faiblesse mentale, c'est que, on est sur une équipe qui a objectivement, LeBron, 41 ans certes, mais LeBron, Luka, Austin Reeves, DeAndre Ayton, Marcus Smart, il y a des gars qui restent depuis longtemps comme Rui Hachimura, Jared Vanderbilt,
du talent.
Il y a des gars autour, il peut y avoir des pièces. On peut dire que l'équipe est mal construite, mais ça, on va revenir après. Et quand on a démarré la saison, on s'est dit dans quel range se situent ces Lakers ? Est-ce que c'est une équipe qui peut... autour d'un Luka vraiment installé. On s'était dit, ouais, Luka, tu vois, il a subi quand même un transfert sismique. Le mec, donnons-lui un été pour vraiment s'installer à Los Angeles. En plus, il y a eu l'extension de contrat. Donc, est-ce qu'on peut avoir une saison complète de ce groupe pour voir quel est son plafond réel ? Est-ce que ce groupe est capable de surprendre un peu à l'Ouest ? Et en fait, là, on fait un point à date, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'équipes là qui voient ces Lakers et qui disent, bon, pas trop peur. Pas trop peur. À un mois et demi des playoffs, pas trop peur.
Et tu attribues ça à la construction du groupe ? Pourquoi pas ? Attention.
Il
hein,
y a énormément d'éléments.
Je dis pas que la construction est parfaite.
Il y a énormément d'éléments.
Ok.
Je pense qu'il y a énormément d'éléments parce que déjà, il y a la construction, c'est-à-dire que par exemple pour un joueur comme Luka Doncic, à Dallas, l'équipe a été formidablement construite autour de lui jusqu'à ce qu'ensuite il se transfère. Hein, mais on était tous assez émerveillés de la façon dont l'équipe était construite autour de Luka. Tu sais, on avait un garde du corps, PJ Washington, des lob threats, Daniel Gafford, Derek Lively, des snipers, ils avaient rajouté Klay Thompson et on avait un super bras droit en Kyrie Irving. Mmh. Il y avait exactement ce qu'il fallait pour aller en finale NBA. Luka se retrouve chez les Lakers et ce n'est pas du tout la même construction d'équipe pour lui. Il se retrouve avec deux autres ball handlers, dont un qui est un petit peu sur son poste, avec Austin et LeBron. Du coup, là, rien qu'en fait, numériquement, le trio LeBron, Austin, Luka cette saison n'est pas du tout ultra dominant. Cette saison, c'est compliqué pour le trio de trouver ses marques.
Ok. Disons qu'il y a eu des blessures aussi qui les ont empêchés.
Oui.
Il n'est pas dominant numériquement. Si tu ajoutes leurs stats à tous les trois, ça envoie un sale. Hein. Il n'y a pas beaucoup de trios qui font tellement mieux en termes de stats.
Les statistiques pures, points, rebonds, passes, voilà. Pointage, etc. J'entends. Mais n'importe quel line-up qui est fait avec les trois est flat. C'est-à-dire qu'en net rating, les mecs, ils sont vraiment mid.
Bah,
ils sont mid. Et lorsque, juste pour donner les détails, lorsqu'on se retrouve dans des combinaisons testées par JJ Redick, parfois avec juste numériquement, le meilleur combo de ces Lakers, c'est Luka et Austin cette saison sans LeBron.
Ouais, c'est possible ça, ouais, tout à fait.
Les meilleures séquences des Lakers cette saison se passent avec Luka Doncic, Austin Reeves et parfois du Smart, Rui, Ayton, parfois même Jackson Hayes à la place de Ayton, etc. Donc, tu as ce trio qui est censé quand même bien marcher ensemble, mais qui, statistiquement, même s'il envoie de la production, ne domine pas.
En fait, le problème, c'est que tu as Luka Doncic et pour moi, tu es obligé de faire des choix plus tranchés que ceux qui ont été faits cet été par les Lakers. Mm-hmm. C'est-à-dire que si tu as Austin Reaves, effectivement, tu le dis d'ailleurs, c'est Austin Reaves plus Lucas, le duo avec trois joueurs autour qui a le meilleur
numériquement, c'est le meilleur net rating. Voilà.
Parce que si tu ajoutes LeBron à ça, bah, non seulement tu ajoutes un troisième ball handler, mais je suis même pas sûr que ce soit le principal problème, c'est juste tu ajoutes un troisième joueur un peu plus ciblable que d'autres en défense. Parce que le gros problème de Luka et d'Austin Reaves, LeBron, ça dépend des soirs, même avec son grand âge. Mais le gros problème de Luka et Austin Reaves, c'est qu'ils sont archi ciblables.
Et les équipes adverses.
Hein?
Et de ces Lakers.
Et de les Lakers. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as, entre guillemets, que Luka et Austin Reaves, pour peu que l'un des deux fasse des efforts, et après, tu as du Smart, Rui Hachimura, Ayton, tout de suite, tu peux te défendre un peu mieux. Mm-hmm. Donc, le problème, c'est que Luka n'est pas forcément fait, à mon sens, hein, pour fonctionner en trio. Luka Doncic, c'est un patron, level MVP, faut lui foutre un bras droit et trois vrais role-players, tu l'as dit, un voire deux joueurs qui sont des pogo stick, rim protector, rebond, courir.
Ce qui a toujours marché avec
et
lui.
Et un extérieur, un troisième joueur extérieur. Le troisième joueur, c'est un extérieur 3&D. C'est-à-dire, à l'époque, Dallas, ils avaient Najee Marshall, PJ Washington, ce genre de type. Okay et dans la raquette, t'avais des Gafford, des Lively, voilà, qu'on kiffait. Aujourd'hui, Ayton pourrait avoir un rôle défensif, rebond et tout, sauf que Ayton, il est casse-couille, il est irrégulier. En plus, quand il considère qu'il a pas assez le ballon, il se permet des déclarations et tout. Moi, je trouve ça assez déplacé de sa part, c'est pas comme s'il était irréprochable, tu vois. J'adore pas ça. Et en plus, bah, comme lui a très bien dit d'ailleurs Capella, gros, tu bosses avec des créateurs de fous malades, donc.
Ce serait déjà bien de.
Faut t'en servir.
C'est ce qui fait que.
Il a pas tort, Capella, parce que Capella, il a pas trop kiffé que Ayton dise, je suis pas Capella.
Bien sûr. Pour moi, c'est un compliment de dire, déjà, si je peux être Capella dans la vie, parce qu'il y a le nombre de carrières qui sont faites comme ça pendant des années, où t'as été dans des équipes qui cartonnent quand même. Et d'ailleurs, pour aligner sur ton point par rapport à Ayton, vraiment, sincèrement, moi, cette saison, on peut penser ce qu'on veut, je pense que les gens savent ce qu'on pense par rapport à Jackson Hayes hors terrain, mais sur le terrain, il y a beaucoup de moments où Jackson Hayes est meilleur et plus impactant que Ayton, parce que, comme tu le dis bien,
parce qu'il fit mieux
son
avec
profil est bien meilleur avec Doncic, absolument.
Fait, ce que les Lakers savent sûrement déjà, et ce que Pelinka doit faire, c'est que tu dois retool autour de Doncic à la manière de ce qu'a fait Dallas à l'époque.
Oui.
Il n'y a pas à tortiller du cul. Et là-dedans, c'est Austin Reaves ou LeBron. C'est pas les deux, je pense. Et jusqu'à il y a encore un an ou deux, t'aurais pu te dire, enfin il y a un an et demi, parce que Luka n'est là que depuis à peine plus d'un an, t'aurais pu te dire, bah vaut mieux garder LeBron. Là, on prend quand même gentiment le chemin. C'est pour ça que je dis, on parle plus de l'été que du printemps. Mmh. On prend gentiment le chemin de genre LeBron James sera plus aux Lakers. On sait pas où il sera l'année prochaine. On en prend le chemin. Après, il y a rien de sûr. Il y a un décrit encore. Mais enfin,
moi je serais choqué que LeBron soit encore là aux Lakers la saison prochaine, à titre perso. Et je pense qu'il y a beaucoup de fans, et ça j'avoue que c'est un truc qui m'a marqué ces dernières semaines, il y a beaucoup de fans des Lakers qui n'attendent que ça. Il y en a beaucoup qui attendent la fin aussi de ce chapitre-là.
Faut les comprendre, c'est-à-dire que LeBron est vieillissant, c'est plus pareil, et c'est l'équipe de Luka Doncic. Et c'est assez incontestable. Maintenant, faut la retool autour de Luka Doncic. Donc, le premier truc que t'as envie de faire, c'est de ne plus avoir le salaire de LeBron James dans ta masse salariale. Mm-hmm. Ça paraît logique, tu vois. Le deuxième truc, on verra ce que font les Lakers, c'est qu'est-ce que tu fais de Austin Reaves qui a une player option à genre 15 millions, genre.
Qui va être agent libre.
Qui va être donc agent libre. Il va dire, ah, les gars, vous êtes gentils, mais voilà. Et qui va demander un gros paquet de pognon. Mm-hmm. Est-ce que tu mets un gros paquet de pognon à Austin Reaves en disant, t'es le bras droit de Luka Doncic, regarde ce qu'a fait Kyrie Irving quand ils sont allés en finale en 2024 et regarde, c'est ça qu'on veut que tu fasses. Est-ce que Austin Reaves, il est OK pour ça ou pas? Ou sinon, il faudra trouver un autre bras droit, parce qu'on sait aussi que Luka Doncic a besoin de relais en ball handling, ce que LeBron et Austin Reaves peuvent lui fournir. Attention, hein. Bon, voilà. Maintenant, et ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, ça va être de se dire, OK, entre Ayton, Vanderbilt, Jackson Hayes, Rui Hachimura, Marcus Smart, Jekyll Arravia, enfin tous ces gars-là, lesquels on garde et lesquels dégagent. Et quand ça dégage, qui on essaie de choper pour mettre à la place? Mais en gros, et c'est pour ça qu'il y a cet apéro aujourd'hui, parce que bah, enfin,
c'est le bordel.
Là, à aujourd'hui, admettons, les Lakers, ça reste top 6 là. Tu vois, ça reste obsus parce que bon an mal an, ça va gagner des matchs. Ouais. Comme tu l'as dit, ça va tabasser les petits, puis ça va baisser les oreilles contre les gros. Enfin, tu vois, voilà.
Ou peut-être qu'ils vont taper un ou deux gros parce qu'ils ont, dans ils ont certains soirs, ils ont des gars qui sont capables quand même d'envoyer.
En fait, ils ont un pouvoir offensif qui, dans certains soirs, peut absolument être très très relou pour n'importe quelle défense. Oui. Par contre, défensivement, c'est quand même très compliqué. En play-off, on sait que ça va leur jouer des tours. Donc, par exemple, admettons top 6, plutôt 5-6.
Oui.
Je sais pas, après, ils peuvent monter un peu parce que c'est serré. Hein.
Oui.
1, 2, 3, ça me paraît très compliqué.
Non, mais
4, 5, 6, ça s'envisage.
4, 5, 6, ok.
Voilà. Qui est-ce que les Lakers peuvent vraiment prétendre battre là, au premier tour de play-off ? À l'ouest, donc évidemment. Voilà. Bon, vous avez 10 secondes pour répondre à cette question, parce qu'il ne faut pas non plus très longtemps. C'est complicado.
C'est pas l'expérience qui manque, mais alors franchement, je ne vois absolument pas comment cette équipe dont tu as parlé au niveau mental et défensif, parce que tu ne peux pas...
Avec ses qualités et ses lacunes.
Exactement, mais tu ne peux pas modifier la défense en 4-5 semaines. Ce n'est pas possible. Le personnel fait que c'est trop compliqué. Donc, tu es voué à te faire sortir très très tôt des playoffs.
Tu es voué à un Luka Doncic héroïque, à Austin Reeves et LeBron James qui, dans leur rôle chacun, sont vraiment au taquet du taquet, c'est-à-dire un LeBron qui, malgré l'âge, envoie du sale rebond parce qu'ils en ont besoin, et un Austin Reeves qui supplée parfaitement Luka Doncic à la création depuis le backcourt dès qu'il est sur le terrain, qu'il soit ensemble ou pas. Tu vois, et il te faut un bon Ayton. Après, moi, je crois en des mecs comme Hachimura, Laravia, Vanderbilt sur leurs minutes. On verra les minutes qu'ils ont, mais je crois que ces mecs peuvent quand même avoir des minutes correctes en playoff, quoi. Moi, j'y crois. Je te dis pas que ça va, mais c'est des mecs qui vont peut-être les bons soirs. Il y a les trois points qui rentrent et la défense, elle est pas si dégueu de ces mecs-là. Tu vois, pas si dégueu.
Oui.
Et mais malgré tout ça, même dans le meilleur des cas, tu vois, dans le meilleur des cas. Là, la tendance, moi je suis assez d'accord avec ce que tu soulignais au début, la tendance elle est pas bonne, c'est-à-dire qu'on voit pas trop qui ils vont battre sur une série en 7.
Donc c'est pour ça qu'il y a eu cet apéro, c'est que à un mois de la fin de cette saison, ces Lakers là ont et LeBron et Luka et Austin qui jouent, je veux dire, il n'y en a aucun qui a un gros problème de santé majeur, les trois sont là, et lorsque les trois sont là, ton plafond est très très clair.
Ouais. C'est là où on en arrive à un autre gars, JJ Redick.
Et donc on en vient à JJ. C'est-à-dire ouais, que, tout à fait, on sait que JJ doit faire avec les modifications dans son effectif et avec les aléas d'une saison régulière. Donc il essaye de jongler avec tout ça, avec l'incertitude par rapport à LeBron l'année prochaine, avec la présence de Luka. Luka et Austin sur le même backcourt, qui est efficace mais qui a ses limites défensives. On a vu aussi des petites images qui sortent de est-ce que JJ Redick et Luka, ça s'entend très bien ensemble ? À voir, parce que du coup, comment s'inscrit l'avenir ?
Tu veux parler de la sortie de terrain de Luka dans le match, c'était contre qui déjà ?
Les Warriors, avec un écran retard de Vanderbilt à apprendre dans toutes les écoles.
Honnêtement, c'est des images qui en disent très long, moi je trouve. Il y a LeBron, c'est LeBron qui rentre pour Luka, il me semble.
Ouais, un truc comme ça. Ouais.
Bon, en tout cas, LeBron croise Luka qui sort.
Lui met une tape.
Et ça se met une petite tape et tout, Luka. Mais Luka, il a l'air saoulé.
Ah, parce que Redick veut essayer de le prendre, lui expliquer un truc.
Et Redick, dans la foulée, mais même avant ça, il a déjà l'air un peu chafouin, le Luka. Redick, quand Luka arrive sur le bord terrain, Redick veut le tirer par la manche et tout. Luka, il enlève sa main et ça se voit en termes de body language. C'est genre la dernière chose qu'il a envie de faire, Luka Doncic, à ce moment-là, c'est de parler à son coach. Donc ça, c'est pas ouf.
Ça va, Redick, il a une forte tête, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il vient au-dessus de Luka,
ouais,
qui est assis sur son siège. Donc là, t'as tous les gens dans la salle qui font genre.
Il y a un petit côté maître d'école.
Un peu, t'as vu, un peu.
Je suis pas sûr que ça soit une bonne stratégie avec Luka, moi, ça.
Redick, une fois qu'il a fini son rant, il retourne vers son côté.
Il dit quelque chose, mais on sait pas quoi.
Tout à fait, il retourne vers ses assistants. Et là, t'as Luka qui se lève pour essayer. En tout cas, ça ressemble à ça, de confronter Luka, et t'as un écran retard
de confronter Redick. De confronter Redick.
Redick.
Et là, t'as au même moment, t'as Vanderbilt qui fait hop, hop, hop.
Qui se lève et qui fait non.
Regarde, on va manger ensemble ce soir.
Exactement.
Ah, c'est moi qui rince.
Alors, dans toutes les équipes NBA, où il y a des gros compétiteurs et des gros coachs, on peut se rentrer dedans. C'est pas la première fois. On avait vu Spoelstra rentrer dans la gueule de Jimmy et les mecs, 3 mois plus tard, ils étaient en finale NBA. Donc, ça arrive. Mais c'est vrai que vu que les choses sont.
C'est même plutôt sain.
C'est même plutôt sain. Mais vu que là, les choses sont assez sensibles à Los Angeles et qu'on est dans un très très gros virage, c'est-à-dire on peut continuer à monter d'échelon en échelon. On est à la transition de LeBron, on est en transition de la famille Buss avec le nouveau propriétaire, on voit des nouveaux décisionnaires qui tombent. Je sais que c'est des nouvelles qui font chier les gens, mais là, les dernières semaines, il a commencé à avoir des directeurs des opérations qui débarquent au fur et à mesure, qui viennent des Dodgers, où tu sens que le nouveau proprio, il est en train de mettre un peu les gars qu'il aime bien. Ouais. Tu vois, pour mettre
ça, c'est un classique. Le mec, il a payé combien?
Il a payé 10 milliards.
Il a payé 10 milliards.
Le roi, c'est lui qui veut. Le papier peint qu'il désire.
J'avoue,
s'il
là.
S'il vous plaît.
En même temps, ça va être compliqué de lui dire non.
Tout à fait. Mais donc, du coup, en fait, moi, l'idée de cet apéro, c'est que c'est un par rapport au titre. C'est que c'est une équipe qui, donc, si on est d'accord, Alex, début mars, est vouée à se ultra-battre sur un premier tour de play-off, sur un aliment de planète, blessure en face, gros coup de chaud, ouais. Peut passer un tour, mais sinon, merci, au revoir.
Oui, 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 c'est une équipe, et j'en reviens à ce que je disais en rigolant au début de la vidéo, c'est une équipe, on est limite, on est bien plus intrigué par ce qui va se passer, parce qu'il va se passer des trucs cet été, il y a beaucoup d'hypothèses possibles, on est bien plus intrigué par ce qui va se passer cet été plutôt que par ce qui pourrait se passer au printemps.
C'est
et
ça,
c'est pas bon signe. C'est pas bon signe parce que concrètement, c'est la fin de l'ère LeBron James à Los Angeles.
Oui.
Concrètement, en fonction du niveau d'embrouille et d'incompatibilité entre un Luka et un Redick. Bon, Redick, franchement, ses heures peuvent être comptées.
Oui.
Ensuite, nouveau proprio, donc potentiellement du changement. Mais donc là, je me suis ouvert une petite fenêtre de contractuel de Los Angeles. Bon, bah donc LeBron, agent libre. Rui Hachimura, agent libre. Austin Reeves. Je dis pas agent libre parce que je suis poli comme garçon, mais player option à 14,8 millions, pour moi, ça veut dire agent libre.
Oui.
T'es d'accord?
Oui.
Ensuite, Vanderbilt, à lui, il a encore deux saisons. Maxi Kleber, on s'en fout. Luke Kennard, on s'en fout.
C'est littéralement.
On s'en fout.
On s'en fout.
Luke Kennard, agent libre. DeAndre Ayton, il a une player option à 8 millions. Lui, il est capable de dire, vous m'avez saoulé, je vais tester le marché. Et il va finir au minimum vet à Boston, remplaçant Nemias Keita. Il ira très bien d'ailleurs là-bas.
Cholet, frère.
Ouais.
C'est pas une insulte.
Déjà, Jake LaRavia en a encore une.
Ayton fait le taf en France.
Marcus Smart est en player option. Donc, tout ça pour dire qu'en gros, il y a beaucoup d'incertitudes aussi sur le roster. Donc, qui dit beaucoup d'incertitudes dit des opportunités. Tu peux aussi avoir un GM, Pelinka, qui se dit, bah, tu sais quoi, qu'ils aillent tous, hein, voilà, qui dégage. Moi, je vais retool autour de Luka Doncic que j'ai eu contre contre Chris Middleton et qui, je sais même plus. C'est chaud.
Des clopes.
Le bilan du trade est pas bon, Nico. Nico, le bilan du trade est pas bon. Nico,
et pour parler justement de Pelinka, les bruits les plus récents indiquent que la franchise souhaite continuer avec lui à la direction.
OK.
Après ce qui se dit en mars et ce qui se fait en juillet.
Quand t'es conforté en mars, tu sais que c'est jamais bon ça.
La couette n'est pas épaisse, je suis d'accord. Mais c'est un des gros sujets, c'est qu'il y a beaucoup aussi de fans des Lakers qui disent j'ai hâte que Pelinka dégage, parce qu'il y a le sentiment que, hormis la fameuse bulle de 2020, on est un petit peu sec sur le bilan global de monsieur à la direction des Lakers. Et donc, si c'est Pelinka qui reste à la direction, comment ça se passe cet été? Tu as récupéré Luka Doncic, donc on est d'accord. Il faut vraiment être un débile pour ne pas...
Que tu as prolongé.
Et que tu as prolongé, tout à fait. Il faut être un débile pour l'avoir récupéré, prolongé, et ne pas construire autour de lui.
Non, mais c'est sûr, ils vont le faire.
Absolument. Est-ce que tu vas conserver Austin Reeves, et si oui, à quel prix? Parce qu'il y a le fantôme, c'est deux joueurs différents, évidemment, mais il y a le fantôme Alex Caruso, hein, pépite, qui n'a pas été conservé par Lakers et qui a fait une formidable carrière derrière, hein, depuis la bulle, là, récemment avec le Thunder, évidemment. Est-ce que tu le prolonges, et si oui, à combien? Parce que est-ce que la suite, ça va être, comme tu l'as dit, de faire de Austin Reeves le bras droit de Luka? Et il a montré qu'il est capable. C'est-à-dire que la production d'Austin Reeves cette saison, c'est quand même énorme. Et les stats...
Combien tu le payes, toi,
et les stats abrondis, juste pour venir, les stats abrondis montrent que ce duo est capable d'être bon, bien entouré défenseur.
D'accord. Combien tu payes, Austin Reeves? Tu penses qu'Austin Reeves aujourd'hui vaut le max?
Non.
Non?
Austin Reeves, attends, je vais te trouver un exemple. Qui prend...
Il y a quand même pas mal de joueurs pas forcément plus forts qu'Austin Reeves qui ont le max ou pas loin. Hein.
Oui.
Genre par rapport à Franz Wagner, par exemple. Par exemple. Hein.
Après, c'est le max de sortie de contrat rookie, Franz Wagner.
Oui.
Parce que là, Austin Reeves, il en est à
27 ans.
Il a 27 piges, donc c'est son troisième gros contrat.
Oui, ça sera un max. D'accord, mais par rapport à Franz Wagner, qui doit avoir un contrat à 220 patates sur 5
ans. Ah, bah oui, je te confirme qu'il va prendre ça, ouais.
Ouais,
je pense.
Bon, après, avantage pour les Lakers, c'est qu'avec tout ce que je viens d'expliquer là sur les agents libres, les machins et tout, t'as de la flexibilité.
Mmh.
Tu peux payer Austin Reeves, fort, 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 et toujours avoir de la place pour recruter et tout. Sous le premier apron. Vraiment, tu peux le faire. Donc, ça va dépendre. Moi, je pense qu'Austin Reeves, il va arriver vers... Attends, pardon, bonjour. Et moi, je veux un très, très gros contrat.
Ok. Tu sais quoi ? Je vais te mettre, Alex, dans le siège. Comme ça, on va bien se marrer. Et je vais vous demander aussi de faire la même chose. Là, si on part du principe que les Lakers... Allez, on va lancer 10 fois les dés, 9 fois ils sont sortis au premier tour. Ouais, tu sais quoi, même en demi, si tu veux.
Franchement, il y a de la, proba, là.
Allez, je suis d'accord. Si tu veux, tu sais quoi, ouais. Même sec en demi.
Ah, s'ils passent un tour, c'est... Franchement, là. En tout cas, tout à aujourd'hui, début mars, les Lakers qui passent un tour de playoff...
Oui, tout ça avec donc une fin plutôt limite haut de boudin, en tout cas, bof-bof de LeBron avec les Lakers. Toi, là, sur les prochains mois, quand on va revoir cette vidéo, c'est quoi la to-do list ? Si t'es les Lakers, parce qu'il y a un truc qui est sûr, et j'ai vu beaucoup de fans le dire aussi, c'est que franchement cette saison, en termes de joie de suivre cette franchise historique, oui. On est tout en bas.
Oui, d'accord.
Et ça peut revenir évidemment
c'est
très vite.
Mais voilà.
Mais comment est-ce que tu fais
oui,
pour retrouver
c'est une
ça
saison difficile, oui. Mais bon, moi je vais pas commencer à plaindre les fans des Lakers, c'est une saison difficile, les types sont quand même en play-off, top 6. Oui, c'est difficile, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une osmose, il n'y a pas un truc qui se dégage de cette équipe, une énergie, je le comprends parfaitement. Mais enfin... Il y a des situations plus compliquées dans la ligue. Hein, genre, je peux en citer une bonne dizaine. Hein, facile. Facile, facile.
Fais ta to-do list.
Donc, to-do list. À titre personnel, je paierai Austin Reeves. À titre perso.
Est-ce que tu conserves déjà Pelinka ? Clean slate. On nettoie tout.
Non, je le vire.
Moi aussi.
Je suis nouveau proprio. Je le vire. Et honnêtement... si je sens que Luka Doncic il commence à me dire ouais le coach et tout, je le viens aussi. Je le dis, hein. Je le dis, voilà. Par contre, je signe Austin Reeves. Tiens, attends, je te fais toute ma course. Mais je suis pas sûr pour Redick. Hein. Ça dépend vraiment du côté leadership. C'est-à-dire Doncic, Reeves, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Je m'en fous de la vie de LeBron parce qu'il s'en va. Ayton, ça dégage. Hein. Enfin, il prend sa player option, mais dans ce cas-là, j'essaie de le packager dans un trade. Mais je croise des doigts très fort pour que Ayton dise non, ça va, j'en veux pas. Tu vois, ça dégage.
Premier first pick avec un double buyout en 2 ans.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Fallait prendre Doncic, hein, malheureusement, hein, on le sait. Hein, bref. Je cherche en prio des prios un, voire deux pivots, longiligne, demande pas la balle, rim protection rebond. Profil,
j'essaie de te trouver
tu
ça.
Peux en payer, hein. Genre profil Nick Claxton. Profil, bon ça marche pas, mais genre Miles Turner. Mais bon, il est trop cher, il est au Bucks, voilà, mais vous voyez, c'est ce genre de profil. Pourquoi pas, je vais faire toc-toc-toc à Dallas, là, qui va vouloir tout reconstruire.
Oui.
Vous faites quoi avec Daniel Gafford et ou Lively ?
Oui.
Derek Lively, tu vois ? Voilà, ce genre de gars. Ou
Mitchell Robinson, il le conserve pas.
Mitchell Robinson, très très bien. Super, magnifique Mitchell Robinson, j'adore. Pour peu qu'il reste un peu en santé, c'est un super mec à mettre avec Doncic.
Mark Williams ?
Ouais, mais là, on le lâchera pas. T'as vu ce qu'il a mis au, à Ayton.
Il est pas au Lakers déjà de base.
À la base, il devait venir, mais là, il bougera plus jamais. C'est fini, il a trouvé sa maison. Mais ce genre de gars, je cherche un, voire deux.
Artenstein.
Un que tu payes un peu. Ouais, il est cher. Un que tu payes un peu, parce qu'après, il vaut mieux payer Austin Reeves, je pense, dans la situation des Lakers. Mais un que tu payes un peu, et un que tu payes pas trop, parce qu'il est un peu plus vieux et tout machin. Ensuite, je vois entre Hachimura, Jake LaRavia. Je mets pas Vanderbilt dans ce truc-là, je mets les mecs qui sont quand même capables un minimum de mettre des 3 points. Hachimura shoot bien cette saison, LaRavia un peu moins, mais il est capable. Mais en gros, ces ailiers-là, en fonction du prix que ça demande, moi, c'est des mecs que je suis prêt à garder. Ou... Bon. Et après, genre, faut en rajouter un. Faut m'en rajouter un. Moi, j'ai jamais trop compris le truc de pas garder Dorian Finney-Smith, par exemple, que je trouvais qu'il fitait plutôt bien. Non, mais ça va, il est remplaçable, hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein.
Ça paraît pas révolutionnaire à Houston.
Non, mais après, à Houston, ils avaient pas besoin de lui, vraiment. Mais après, je regarde sur le marché, qu'est-ce qu'il y a de payable, là, qui c'est qui veut venir aux Lakers pour une mid-level exception, là.
Il y aura toujours du monde pour venir. Surtout que Luka, il a tendance à faire gonfler ton contrat. Hein.
C'est ça. Donc en gros, je me dis, bah ouais, ça se trouve, on va toujours à Dallas. Dallas avait une Agi Marshall pour pas cher. Ce genre de profil. Je vois ce que lâchent les Nuggets, ce que lâchent les Rockets, quels joueurs ils veulent plus. Ah bon, ils veulent pas garder Jabari Smith ? Ah mais tiens, Jabari Smith, ça nous intéresse. Je sais pas, hein, voilà, ce genre de truc. À Miami, ils lâchent je sais pas qui, ou voilà. Et je construis comme ça. Mais l'objectif numéro un pour moi, c'est, ouais, je pense que Pelinka ça dégage, c'est Austin Reeves est vraiment un pivot qui colle à Luka Doncic. Pour avoir une relation intérieure-extérieure, quoi qu'il arrive sur le terrain, qui qui te fasse avancer l'équipe autour de laquelle tu peux construire. Voilà. Tu as pas mal, hein. Tu sais que c'est pas gagné.
Mais c'est ça, taf, en fait. Attention, c'est craint que déjà, ça, c'est.
Eh, il y a du taf, hein.
Là, Alex, il y allait, t'y allais avec l'intérieur du pied, hein. Là, tu nous as fait un.
C'est-à-dire?
Bah, tu nous as fait un truc simple, hein. Enfin, je veux dire, t'as fait les étapes 1, 2 et 3. C'est déjà un été de bâtard, ça.
Attends,
déjà
fait exactement. Ça. Le mec, s'il arrive à faire tout ce que je viens de dire.
On est déjà sur un été
de bâtard. Genre, on va arriver, arriver avec une preview la veille de la reprise, hein.
Le tableau, là, pour Léon, ça va être fun, hein. Le tableau des. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai été vérifier les tableaux. Cinquième des previews dans la conférence Ouest pour toi, sixième chez moi.
Et on un a peu donné... trop de win, non?
Non, mais on a donné 50 victoires. Quoi.
Mais c'est ça trop.
Ils vont y arriver, c'est bon.
Ils vont y arriver, tu crois? Il reste 20 matchs.
En 36-24.
Ouais, ils vont pas gagner 15 des 20 prochains, moi je crois pas. Moi je dis, ils vont s'arrêter à 46. 10-10. Ouais, sera... Oh, bah qu'on verra. Bon, bref. On sera pas loin, on connaît nos Lakers.
Moi je suis le proprio là, et ça dégage là. Moi je suis clean slate chez les Lakers. Pelinka, ça se barre. Merci, merci pour tout, ciao bye. JJ Redick, moi je l'ai dit,
JJ
allez,
Redick,
on s'en
tu
off.
Dégages, ouais.
J'ai dit, allez, on s'en off, on ah y ouais va, on lui offre même la chaîne YouTube s'il veut, comme ça il vient, il nous raconte les coulisses des Lakers.
Mind the game.
Ici. Viens, Gigi. Viens nous raconter, là, tu vois, il reprend les podcasts, il nous raconte toutes les coulisses de cette franchise. Voilà. Viens.
Tiens, hey, il fait son Phil Jackson, on appelle ça faire une Phil Jackson.
Il fait une Phil Jackson, exactement.
Un Flowing Circus, je recommande la lecture, qui est traduite en français d'ailleurs, tiens, allez, bim, par chez Talent Sport.
Tout à fait.
Très bien, c'est très bonne trad.
Ça dégage. Ça, la tête, là. Hey, pff, on arrête de tourner autour du pot. Merci. Oui. Foutez une statue pour Riley, comme vous avez fait. Mettez une statue pour Ginny Buss, même. Allez-y. Ouais, pas de souci. Pas de problème. Vu que
c'est quoi le rapport, là, les statues, là?
Non, je fais la totale. Parce que, je fais la totale. Parce qu'en plus, d'ailleurs, petite question, là, juste pour Léonce, pour la commu et pour Alex. Il n'y a pas de Riley qui a eu la statue. Phil Jackson, il a une statue aux Lakers ou pas?
Phil Jackson? Bah ouais.
Tu veux dire.
Oui ou non?
Oui.
Bah quand même.
Merde.
Ça s'est vu un peu.
Va falloir s'en.
Bah faut s'en occuper.
Va falloir s'en occuper. Alors je pense que vu que. Mais non, mais on est d'accord. Mais vu que là. En fait, je posais la question parce que. J'ai l'impression que vu que LeBron est encore là, notamment avec les histoires relationnelles, Phil Jackson, LeBron et tout, je suis pas certain qu'ils veulent le mettre là maintenant en place. Mais Phil Jackson, il doit avoir une statue là, on y va, non?
Le rapport avec LeBron, j'ai pas capté.
Phil Jackson et LeBron, c'est pas non plus.
Ah oui, d'accord, mais. Sinon...
Total. Mais c'est tout.
Mais oui, Phil Jackson, pour moi, peut tout à fait avoir
sa
statue. Une statue aux Lakers.
Bah, on est d'accord. Donc, quitte à tout faire bien, là, moi, j'arrive avec le brouillot et, je fais, et vous allez me foutre une statue de Phil Jackson, là, comme ça, on est parfait. Hein. Comme ça, il n'y aura pas de Riley, Phil Jackson, on se marre. On garde, évidemment, Luka, on garde Austin. Je suis d'accord avec l'axe pivot.
Quand même.
Quand même.
C'est important. C'est la base pour jouer avec Doncic.
Oui, mais je sais... que très probablement le truc vers lequel on va se diriger, vu comment ça se passe en NBA, la compétition à l'Ouest, etc., c'est s'assurer que Luka soit bien dans cette franchise, soit bien mis en avant, se sente bien, parce qu'il a quand même vécu un truc qui a été très dur avec le transfert de Dallas. Donc il se sente bien au niveau de son entourage. Avec Austin Reeves, j'ai l'impression que ça se passe bien les deux, ils s'entendent bien, ils se chamaillent un petit peu.
J'en sais rien, je mets
ça a l'air,
pourquoi pas.
Ça a l'air. Qu'au niveau du coaching, ça se passe aussi pour Luka, parce que, attention, ça aussi, hein, c'est une forte tête, donc il faut trouver le bon gars. Et la fameuse utilisation des picks de draft des Lakers, lesquels ont-ils et comment ça se passe? Parce que moi, j'aimerais bien voir Adoutiero et certains gars jouer, mais la dernière fois qu'on a vu vraiment des picks de draft bien utilisés par Lakers, conservés,
des joueurs draftés.
Des joueurs draftés. Et qu'on essaie de bien les drafter.
Depuis Magic, je veux dire.
Austin, c'est un pick de draft des Lakers?
Je ne sais même pas dire. Je regarde tout de suite.
Depuis Magic, quand même.
Magic qui? Vas-y, dis-moi. Kobe?
Ouais.
Kobe.
Bynum.
Austin Reeves, c'est pas un nom de draft.
C'est un undrafted?
C'est un undrafted, hein, je crois. Attends, bouge pas. Oui, c'est ça.
Bah, c'est un undrafted.
Undrafted.
Magnifique. Magnifique.
Ça, c'est bien joué.
Donc ça, moi, je vais dire, tu sais quoi, vas-y. Et...
Mais sinon, des pics de draft... Excuse-moi, des joueurs draftés par les Lakers qui ont vraiment percé...
Il y en a pas énormément.
Il n'y en a pas 50. Et puis, attends, c'est pas leur culture.
Non, mais je veux dire, par là, c'est que oui, il y en a certains qui vont dire « Alex, voyons, Eddie Jones, c'est ta génération, on y va. »
Genre, s'ils perdent Austin Reeves, s'ils n'arrivent pas à le signer, par exemple, je les vois beaucoup plus, genre... Je dis n'importe quoi, hein, mais avoir hein, sur Jaylen Brown ou sur Anthony Edwards. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Genre, je les vois beaucoup plus là-dessus que sur qui est-ce qu'on va drafter au premier tour. Tu vois, genre.
D'autant plus que tu as Luka. C'est-à-dire que la timeline, elle est là. À partir du moment où Luka Doncic joue au basketball, tu peux être compétitif si c'est bien construit. Ça, c'est prouvé. Et donc, j'aimerais aussi rassurer Luka là-dedans parce que c'est un génie indéniable qui. en prend plein la tronche cette saison au niveau tout, médiatique, remarques, critiques. Parfois, c'est justifié quand il est plus intéressé à l'idée de savoir comment les arbitres vont siffler que sa véritable production des deux côtés du terrain, notamment en défense. Mais par contre, j'ai un petit peu de pitié pour Lucas, parce que il a fait les efforts l'été dernier quand on lui a demandé pour se ramener en forme, il l'est. Et c'est peut-être l'équipe la moins bien construite autour de lui depuis sa saison rookie. Dans tout ce qu'il a vécu en NBA, qu'est-ce qu'il y a comme équipe moins bien foutue pour Luka Doncic que celle de
cette année ?
C'est trop compliqué.
Trop problématique, je suis d'accord.
Donc, rassurer le projet avec ce gars qui a quoi ? Il a 25 ans, 26 ans, Luka ?
Mais je maintiens quand même que là où Pelinka s'est le plus chié à la dernière intersaison, c'est sur le pivot. C'est-à-dire que si, par exemple, ils avaient juste, ne serait-ce qu'un pivot qui colle beaucoup mieux à du Luka, et tu sais quoi ? Même à LeBron, en fait. Tu vois ? Eh ben, ça marcherait mieux. Là, le problème, c'est qu'Ayton, ouais, il a du talent offensif, mais dans le jeu pur et dans la mentalité, il colle pas.
Oui.
Il colle pas.
Et si, encore une fois, donc je suis pas très loin de ton plan, hein, c'est juste le même avec des feux d'artifice. Hein. Ouais. Mais donc, si on prend nos deux plans, tu sais qu'on est au devant quand même, et c'est aussi ça, cet apéro, c'est oui, la fin de saison, on va voir les playoffs, tout ça, mon cul sur la commode. Mais on a un été des Lakers qui arrive là. En gros,
le
tiret numéro 3, c'est le fait que LeBron se casse des Lakers. C'est même pas le plus gros.
Non, c'est pas le plus gros. Sauf s'il se casse et que c'est la retraite définitive, auquel cas tout de suite ça remonte d'un cran en termes de comment je prends l'actualité.
Et comment tu fais, Alex, juste une dernière question, si tu es fan des Lakers et que tu as LeBron qui se barre, mais que et Pelinka et JJ Redick restent?
Ça n'arrivera pas, ça. Ça n'arrivera pas, ça. Je pense que LeBron va se barrer, je vois pas du tout les Lakers garder et Pelinka et JJ Redick. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire, après, voilà, hein, mais... Ça se trouve, le nouveau boss, il dit non, ok les gars, allez, je vous redonne votre chance et tout. Par contre, on y va, quoi. Je veux jouer les finales NBA, quoi. Donc, pression maximale.
Il y a du pain sur la planche. Donc, pour répondre à la question, faux bilan.
Ouais, faux bilan. Vraie équipe, vraie base d'équipe, mais pas vraie équipe encore.
Il y a du boulot. Il y a du pain sur la plancha. Dites-nous, fans des Lakers, ce que vous pensez de tout ça, évidemment. On a très hâte de la fin de saison et notamment de cet été parce qu'on va bien se marrer dans la Cité des Anges. On vous fait des gros bisous et on se retrouve dans d'autres apéros.
Ciao.